Le plateau qui parle. Aujourd'hui, Claire Choquet du parc naturel régional de Millevaches, interviewée dans son bureau à Gensoux pour revenir sur une journée importante qui a eu lieu lundi 21 octobre à Bugeat au sujet du foncier. Tous les maires du plateau de Millevaches étaient invités par le parc à réfléchir à la question du foncier vacant, comment reconquérir du foncier sur sa commune au service de l'installation de jeunes actifs. Il s'agit donc d'agriculture essentiellement. Comment retrouver quelles sont les parcelles où pourraient s'installer des jeunes agriculteurs? Comment être au courant quand on n'est pas dans une famille d'agriculteurs des ventes qui vont avoir lieu? Et même plus en amont, quand on est maire ou conseiller municipal, comment savoir à quels endroits il pourrait y avoir une installation agricole, sachant que les prix sont de plus en plus élevés pour pouvoir s'installer, évidemment, et que la tendance est souvent à l'agrandissement des fermes déjà existantes. Claire Choquet, dont le titre est « Chargée de mission agriculture durable au parc naturel régional », revient sur cette journée d'information des maires et sur l'état des lieux de l'agriculture et du cadastre de l'occupation des sols sur le plateau de Millevaches.
Donc c'est parti du constat que sur le parc, le nombre d'exploitations agricoles ne cesse de diminuer, que celles qui restent s'agrandissent, que le montant moyen à l'investissement des fermes est devenu, en gros, en moyenne, il est de 250 000 euros sur le parc, mais par exemple sur des spécialités bovin-viande, il est beaucoup plus grand, il est de 500 000 à 600 000 euros par ferme, et du coup c'est devenu un vrai frein à l'accès à la terre, enfin, c'est-à-dire qu'une personne qui souhaite s'installer et qui en plus n'est pas issue du milieu agricole, doit, pour démarrer, avoir un capital minimum de 600 000 euros, donc voilà, c'est quasi impossible pour quelqu'un qui n'a pas un énorme capital de départ.
Et les prix là que tu as donné, c'est le prix moyen d'achat pour quelqu'un qui arrive, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en capital, pour acheter les bâtiments, le cheptel, les terres, le matériel, ça va coûter 600 000 euros minimum. Je pense, c'est très fréquent que ça coûte 600 000 euros en spécialité bovin-viande, par exemple. Et en moyenne sur le parc, ça va de 230 à 250 000 euros selon les moyennes de Gorrèze, de Haute-Vienne ou de Creuse. 600 000, c'est pour les bovins-viande. Du coup, c'est en fait la spécialité qui demande le plus d'investissement. Je crois que la DRAF en région, elle a dit que pour générer en bovins-viande 10 000 euros de richesse, il fallait 90 000 euros de capital de départ. Donc tu vois le ratio, c'est-à-dire que quand tu es en bovins-viande, pour générer 10 000 euros de richesse, il faut 90 000 euros de capital mobilisé. Donc c'est énorme, c'est la spécialité qui demande le plus d'investissement. Mais après, du coup, si tu fais une moyenne avec les poules pondeuses, forcément, tu arrives à une moyenne à 230 000 euros. Je caricature, mais voilà. Et donc, du coup, il y a ça, il y a l'investissement de départ et il y a l'accès à l'information sur le foncier. Aujourd'hui, même s'il y a des instances telles que la SAFER, même s'il y a des chambres d'agriculture qui ont mis en place un réseau à l'installation pour des porteurs de projets, c'est toujours très difficile, si tu n'es pas sur le terrain, d'avoir accès à l'information sur le foncier disponible. Donc surtout si t'es pas en milieu familial agricole, quoi. Partant de ces deux constats-là, et conscient du fait que aujourd'hui, dans le cadre de la révision de charte, par exemple, on revoit les chiffres agricoles sur le parc, et on voit qu'il y a donc de moins en moins de fermes, que la plupart des fermes de 20 à 50 hectares, elles sont détenues par des plus de 60 ans. Donc nous, on n'a pas la donnée, contrairement aux chambres d'agriculture, sur leur volonté de savoir s'ils ont connaissance d'un repreneur ou pas. Mais on se doute que sur toute cette surface-là, il va y en avoir, dans les 10 ans à venir, une grosse proportion qui va se retrouver sans repreneur. Et voilà. Donc on sait qu'il va falloir forcément faire appel à d'autres personnes pour reprendre toutes ces surfaces-là. Donc nous, en tant que PNR, on se dit la meilleure façon d'agir et notre légitimité, c'est en tant qu'interlocuteur des communes, de montrer aux maires qui sont conscients de ce problème-là, mais de leur donner en main les outils pour qu'ils arrivent à accueillir des nouveaux actifs, comme on dit, c'est-à-dire accueillir de nouvelles personnes sur ces fameuses fermes. Voilà, et donc cette idée de la journée du 21 octobre à Bugeat, c'était vraiment de faire un peu intervenir les principales personnes qui s'occupent de foncier pour donner les outils aux élus concernés. Donc on a invité 150 communes à peu près, enfin pas 150 communes, 150 collectivités, c'est-à-dire les 129 communes du périmètre d'extension du parc, plus les 12 ou 13 communautés de communes concernées. Et donc, on a fait intervenir la SAFER, on a fait intervenir un notaire pour poser toutes les définitions réglementaires sur notamment les biens vacants, les biens sans maître, les biens incultes, les biens de section, qui sont en fait, on va dire, des biens en déshérence ou qui vont pouvoir être récupérés, par exemple, par une commune si elle veut installer quelqu'un. Mais alors, installer quelqu'un, ça veut dire pas forcément que sur ces surfaces-là, mais c'est un moyen pour elle d'agrandir, par exemple, un petit îlot de terre qu'elle a déjà à connaissance en vente. Enfin voilà, on a fait intervenir donc Terre de Liens pour l'accès au foncier. Donc la SAFER a présenté longuement les outils qu'elle a en main pour les communes. Et la Chambre d'agriculture régionale a présenté en fin de journée le centre de ressources du foncier, qui sera un service aux collectivités, payant ou pas, on ne sait pas encore trop, sur le foncier disponible sur leur territoire. Voilà. Donc les collectivités ont un rôle à jouer. En gros, pour moi, ça se joue sur deux points. Soit un maire va avoir connaissance d'une vente, donc le cas un peu opportuniste, entre guillemets, enfin sans sens péjoratif du tout, mais soit va y avoir une vente, et donc là, à la limite, la collectivité, ce sera plus facile pour elle d'acquérir ce bien, donc soit avec, en utilisant le droit de préemption ou pas, mais en tout cas de le stocker pour le rétrocéder après un porteur de projet. Ça, c'est le cas le plus facile, entre guillemets. Mais en fait, cette journée-là, c'était aussi pour essayer d'aborder une façon plus volontariste, et peut-être plus en amont, de rechercher du foncier pour un maire ou un conseiller municipal. C'est dans cette optique-là qu'on a abordé les questions de biens vacants, de biens sans maître, de biens en déshérence, qui sont donc des terres, on en a conscience sur le parc, peut-être à peu près 24%, enfin un quart des surfaces communales sont des surfaces à l'abandon, mal gérées, peu gérées, parce que les propriétaires sont plus là, vivent plus là, dans certains cas ne savent même plus qu'ils ont ce bien-là, cet endroit-là.
Tu parles de 24% des surfaces communales. Tu parles des communes ou des propriétaires privés, j'ai pas bien compris.
Sur la surface cadastrée de la commune, je dis 24%, c'est un chiffre qu'on a étudié sur une commune test comme ça, pour préparer la journée. En gros, on a étudié, c'est la commune de Faux-la-Montagne en l'occurrence, on a pris l'occupation du sol et en fait on constatait qu'il y avait peut-être, je crois que c'était 25-26%, enfin un quart on va dire, de surface non valorisée, on va dire landes, friches, accrues de chênes de 15 ans. Et ça, c'est par exemple des terrains dans lesquels potentiellement un maire peut y trouver un bien vacant, un bien sans maître. Les biens de section, souvent, sont dans ce cadre-là aussi. Voilà. C'était l'objet toute la matinée, en fait. Donc, on a commencé par faire intervenir Christophe Cacchino, donc notaire à Gensioux, sur la définition de ces grandes notions-là, bien vacant, bien de section. Il y a une loi, en plus, qui est sortie en mai 2013, qui sonne le glas un peu des sections de communes et qui va, en gros, permettre un transfert beaucoup plus facile à la commune. Du coup... Disons que moi, au sein du parc, avec mon collègue Olivier Villa, on est allé à une formation organisée par l'Union régionale des communes forestières et l'ONF sur à peu près le même thème, c'est-à-dire comment remobiliser, on va dire, du foncier forestier pour constituer un patrimoine communal. Et dans ce cadre-là, évidemment, ils se sont saisis de cette loi sur les biens de section en disant bah, « Vous, maire, vous allez bientôt avoir la possibilité de récupérer quand même pas mal de surface pour, par exemple, les planter et augmenter votre patrimoine forestier. » Ce qui peut paraître plus un investissement... en capital que d'installer un jeune agricole. Voilà. Et donc nous, on s'est dit, ben, cette loi sur les sections, c'est peut-être aussi l'occasion de dire au maire, ben, vous pouvez récupérer, enfin, de toute façon, vous allez être... Ça va être beaucoup plus facile pour vous de récupérer ces biens-là, mais peut-être aussi qu'on peut s'en servir pour installer de nouveaux actifs agricoles, par exemple. Voilà. C'est pour ça qu'on a abordé pas mal la notion de biens de section, et Christophe Cacchino a refait un point là-dessus.
Ça, c'est un des axes du parc, une des volontés du parc. Que des actifs, des jeunes paysans, jeunes ou en tout cas que des personnes arrivent pour s'installer comme agriculteurs sur le parc.
Ah oui, dans le cadre des missions d'aménagement du parc, on a intérêt à faire en sorte que, enfin déjà, environnementalement, on a intérêt à ce que les paysages restent ouverts, à ce que certains milieux continuent à être entretenus, entre guillemets, enfin à valoriser quoi, les landes, les espaces de tourbières, enfin, les zones humides, tous les espaces ouverts. Et puis bah, c'est 35% de, ça a un peu baissé, mais sur le parc, en gros, les actifs agricoles représentent 30% des actifs. C'est un vrai enjeu de maintenir des agriculteurs qui sont encore voilà, une population active du parc très importante. Et donc, du coup, qui dit population active, dit service aussi. Enfin, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qu'il va y avoir des enfants à l'école, des services de santé qui vont être maintenus, etc., etc. Donc voilà, dans le cadre à la fois du maintien de l'environnement, mais aussi de maintenir des gens sur le plateau, on a tout intérêt à travailler là-dessus.
Il y a des investisseurs étrangers qui viennent de pays où la terre est beaucoup plus chère, qui s'intéressent aux terres d'ici.
Oui, mais oui, bah, donc là je rejoins ce que je disais sur le montant à l'investissement moyen des exploitations qui est devenu donc très cher. On a le cas là sur le parc très récemment, j'ai en tête deux exploitations, une en bovin-viande et une en mouton. La personne part en retraite. Elle a entretenu sa ferme toute sa vie. C'est, en l'occurrence, c'est une ferme qui est entièrement en propriété. C'est pas une ferme en fermage. Bah, c'est un outil de travail qui va être à 1 million d'euros, transmissible à 1 million d'euros. Du coup, effectivement, la seule personne qui l'a trouvé, parce qu'il tenait aussi à ce que ce reste des brebis, c'est effectivement un Belge qui vient avec 1000 brebis et qui, pour lui, une ferme à 1 million d'euros, qui doit, ça doit être une grande ferme quand même, hein, entre peut-être 150-200 hectares. Bah, ça reste encore rentable dans un pays, parce que le pays d'où il vient, la Belgique, le prix de la terre est à 45 000 euros l'hectare et nous, elle est en moyenne en France à 5 000 euros l'hectare, quoi. En Limousin, pardon. Donc effectivement, pour lui, ça reste rentable. Donc oui, c'est une tendance qui est d'actualité, je dirais pas qui est majoritaire, mais qui est émergente sur le plateau. Voilà, j'ai en tête, comme ça, je te dis, deux exemples d'investisseurs étrangers qui viennent des Pays-Bas ou du Danemark.
En soi, le fait qu'il soit étranger pose pas de problème. Par contre, c'est ce que vous vous dites, c'est que le prix...
Bah, c'est juste par rapport au prix du foncier. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on n'a aucun problème avec le fait qu'ils viennent d'ailleurs. C'est juste que c'est simplement des personnes qui viennent de pays où la terre est très très chère qui vont avoir les moyens d'accéder à ces outils de production. Je reviens juste sur le fait que les outils de production à 1 million d'euros, bah, ça se transmet pas à n'importe qui non plus, quoi. C'est énorme. Voilà. Donc nous, on va prêcher au sein du parc pour essayer de maintenir des structures d'exploitation à des prix convenables pour que on puisse avoir quand même un maximum de personnes qui y aient accès. Sinon, effectivement, on va arriver vers... Si je schématise au maximum, on va dire, si je noircis le scénario, on va arriver à des haciendas comme en Amérique latine, à 600-700 hectares, avec des gestionnaires à la limite étrangers au territoire. Voilà. On ne va pas arriver à ça, je pense.
Vous êtes bien sur Radio Vassivière, le plateau qui parle. Encore quelques minutes avec Claire Choquet du parc naturel régional Millevaches en Limousin. Claire Choquet revient sur la question du cadastre. Ces documents datent de plusieurs décennies et souvent n'indiquent plus les bonnes affectations du sol. Claire Choquet nous parle de ce problème.
Et en fait, c'est en croisant les données d'occupation du sol, c'est-à-dire concrètement, par photo aérienne, on sait à tel endroit, il y a des plantations de résineux, à tel endroit, là, c'est du boisement taillis, de la crue de chêne, à tel endroit, c'est une zone humide, à tel endroit, c'est de la zone agricole valorisée. En croisant ça et la déclaration de l'occupation du sol au cadastre, on se rend compte que c'est pas du tout... Par exemple, il y a 25% de land sur la commune de Faux. En fait, sur le cadastre, pardon, hein, en gros, land, taillis, tout ça, là, tout ce type d'occupation du sol. Et par contre, sur la photo satellite, il n'y en a plus que 1 ou 2%. Donc il y a un problème. Ça vient du fait que l'occupation du sol a été mise à jour par les services de l'État en 1961. Ça date, donc tout ce qui est au cadastre date de 1961. Et ensuite, depuis cette date-là, il n'y a eu aucune mise à jour de fait. Et par contre, c'est déclaratif. C'est-à-dire qu'un propriétaire, quand il va acheter un bien et qu'il veut changer l'occupation du sol, par exemple, il veut planter, il va déclarer, donc c'est sur la base du volontariat, aux impôts, voilà, ma parcelle, maintenant, c'est du boisement résineux. Mais c'est que déclaratif, donc en fait, ce n'est pas toujours fait. Dans le cas du boisement résineux, ça peut être fait parce que, justement, les propriétaires vont avoir l'exonération trentenaire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer d'impôts pendant 30 ans tant que leurs boisements seront jeunes. Donc, eux, ils vont peut-être souvent le faire, mais dans le cas des défriches, par exemple, ça ne va pas être fait. Dans le cas inverse, ça ne va pas être fait. Et puis même dans le cas des boisements, souvent, ils ne le font pas. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'ils ne savent pas. Enfin, voilà, j'en sais rien.
Donc finalement, qui a toutes les données à part Google Earth? Qui a les bonnes données sur les occupations du sol sur le parc?
Personne. Justement, on constate que les affectations du sol sont complètement obsolètes. Et en fait, ça a quand même une conséquence pour les communes, parce que le revenu cadastral perçu par ces communes, donc les taxes foncières, hein, elles sont complètement liées à la valeur locative du bien en question. Et laquelle valeur locative est établie en fonction de ce qu'elle peut rapporter, entre guillemets, selon la valeur du bien. C'est-à-dire qu'une parcelle boisée, en théorie, elle va produire tant de chiffre d'affaires, on va déduire tant de charges d'exploitation. Ça a été établi en 1960. Ça a été remis à jour par des indices en 80, je crois, bon voilà, ça va donner une valeur locative de temps et donc un revenu cadastral de temps qui lui sera supérieur par exemple au revenu cadastral d'une lande, d'une friche qui lui vaut rien. En gros, je sais pas, ça va être 10 euros de taxes foncières sur 3 hectares, hein. Enfin, je dis au pif, je sais pas bien, mais. Et donc, ça a quand même une conséquence pour les communes parce que même quand il y a exonération fiscale pour les boisements, les communes sont remboursées par l'État. Donc en fait, on peut supposer que quand on voit qu'au cadastre, il y a 25% de land, alors qu'en fait, quand on regarde par photo satellite, c'est des boisements, on peut supposer qu'il y a quand même un manque à gagner pour les communes. Voilà. Mais ça, en fait, ça ne peut être que l'État qui le met à jour. Aujourd'hui, l'État est en train de remettre à jour la valeur locative et le revenu cadastral des propriétés bâties à usage commercial. Donc on peut penser qu'en suivant, il y aura tout le bâti, et encore en suivant, qu'il y aura le non-bâti. Mais bon, à chaque fois, il faut qu'une loi sorte, donc c'est peut-être dans 10 ans.
La commune ne peut pas décider elle-même de prendre son cadastre et remettre à jour en fonction de ce qu'il y a réellement sur les parcelles ?
Alors, moi, j'ai donc contacté le service des impôts fonciers là, d'Aubusson, et ils ont répondu en gros qu'il manquait de moyens humains, et que donc la commune, via ce qu'on appelle la commission communale des impôts directs, peut proposer une nouvelle occupation du sol, mais à condition d'avoir elle-même fait tout le travail de fourmi, de vérifier, de croiser, de dire bah, « là, c'est plus telle occupation, c'est celle-là ». Enfin, voilà, en clair, c'est quand même un travail conséquent pour cette commission, et elle ne peut que proposer. Donc, je pense que les services des impôts le mettraient à jour, à condition qu'on lui amène le travail fait, quoi.
Ce matin encore, c'était le plateau qui parle avec Claire Choquet, chargée de mission agriculture au parc naturel régional de Mille Vaches. On se retrouve demain à 7h30, puis dans le 12-14 de Kevin, pour une nouvelle édition du plateau qui parle.